Il est 15h à Paris et 15h à Kinshasa, c'est l'heure du journal. Journal présenté par Charlotte Hydrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour, j'ajoute 18h à Bakou, où les négociations s'annoncent déjà difficiles à la COP29 qui s'est ouverte en Azerbaïdjan. Ça a bloqué sur l'ordre du jour, malgré les appels à la coopération mondiale pour faire face aux effets du changement climatique. La fermeté affichée au sommet de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad. D'emblée, le prince héritier saoudien a condamné un génocide, je cite, commis par Israël à Gaza. Après des hauts et des bas, l'amitié franco-britannique est réaffirmée aujourd'hui à l'occasion des commémorations du 11 novembre en présence du Premier ministre Keir Starmer. Et puis de nouvelles aides annoncées en Espagne après les inondations meurtrières. Selon le chef du gouvernement, le temps du débat politique viendra après la reconstruction. Le programme a déjà pris du retard à la COP29, la conférence climat de l'ONU qui s'est donc ouverte aujourd'hui à Bakou en Azerbaïdjan. Ça a débuté avec des désaccords sur l'ordre du jour officiel. Alors que l'enjeu essentiel de ce rendez-vous et le principal bras de fer, c'est le financement des aides aux pays les plus vulnérables. Et un rapport publié là aujourd'hui pourra nourrir les discussions. Rapport de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat en 2024. Pas de bonnes nouvelles. Simon Rosé, cette année sera la plus chaude jamais enregistrée.
2024 n'est pas encore terminé, que l'OMM l'anticipe déjà. Ce sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, battant le record de 2023. L'Organisation météorologique mondiale prévoit même que cette année sera la première à dépasser plus 1,5 degré de réchauffement. L'accord de Paris ambitionne pourtant de maintenir le changement climatique à ce niveau. La partie n'est cependant pas perdue. Il faudrait pour cela dépasser ce seuil plusieurs années durant. Le record de 2024 s'explique en effet par une variabilité naturelle, en l'occurrence le phénomène El Niño, qui s'est ajouté à la tendance de fond au réchauffement. Les conséquences sont tout de même lourdes. Depuis le début de l'année, les inondations, sécheresses, tempêtes et feux de forêt se sont multipliées sur tous les continents et à toutes les saisons. L'océan mondial n'en finit plus de se réchauffer à des niveaux records et les glaces fondent à un rythme qui s'accélère. Les glaciers de la planète ont ainsi perdu en un an l'équivalent en eau de 5 fois la mer morte. Tout cela n'est qu'un avant-goût du futur, prévient la secrétaire générale de l'OMM, qui rappelle à l'occasion de l'ouverture de la COP29 qu'en matière de réchauffement climatique, chaque dixième de degré et donc chaque tonne de carbone évité dans l'atmosphère a son importance.
Et les chefs d'État et de gouvernement seront réunis en sommet demain pour cette COP29. Parmi les grands absents, Joe Biden, Xi Jinping, Lula ou encore Emmanuel Macron. Un appel, quel appel ? La Russie dément tout échange téléphonique entre le président Vladimir Poutine et le président élu des États-Unis, Donald Trump. C'est ce qu'avait affirmé, entre autres, le journal The Washington Post. Pure invention, selon le porte-parole du Kremlin. Donald Trump qui a annoncé ses premières nominations avant son retour à la Maison-Blanche. Et pour l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration, il a choisi un tenant de la ligne dure, Tom Homan, qu'il surnomme le tsar des frontières et qui sera chargé, dit le prochain président américain, de toutes les expulsions d'étrangers illégaux. En pleine guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, le Liban fait face à une crise sans précédent qui menace l'existence même du pays. C'est ce qu'a affirmé tout à l'heure le Premier ministre libanais au sommet de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient à Riyad en Arabie saoudite, rencontre consacrée au conflit en cours dans la région et sur laquelle plane l'ombre de Donald Trump, Nicolas Falaise.
Dès l'ouverture du sommet, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a utilisé le terme « génocide » pour qualifier les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza. L'hôte du sommet de Riyad a également appelé l'État hébreu à respecter la souveraineté territoriale de l'Iran et à s'abstenir d'attaquer son territoire. Des déclarations très fermes, autour desquelles se retrouveront les membres de la Ligue arabe comme ceux de l'Organisation de la coopération islamique, même si de fortes divergences existent entre ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël et ceux qui s'y opposent, à commencer par la République islamique. La réunion de ce lundi en Arabie Saoudite se déroule moins d'une semaine après l'élection de Donald Trump aux États-Unis et alors que les pays de la région s'interrogent toujours sur les intentions de ce dernier. Le prochain président américain s'efforcera-t-il de mettre fin au conflit en cours comme il l'a promis ou sera-t-il un soutien inconditionnel de l'État hébreu dans la guerre ? comme dans le projet de l'actuel gouvernement israélien, de torpiller toute perspective d'établissement d'un État palestinien.
Et vouloir établir justement un État palestinien n'est pas aujourd'hui un projet réaliste, c'est ce qu'a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à Jérusalem. J'ajoute dans ce contexte que la compagnie aérienne Lufthansa a prolongé la suspension de ses liaisons avec Tel Aviv, et cela jusqu'au 15 décembre.
RFI, Radio France Internationale.
En France, la flamme du soldat inconnu ravivée sous l'Arc de Triomphe à Paris. Traditionnelle cérémonie du 11 novembre pour marquer l'armistice de la Première Guerre mondiale en 1918. Moins traditionnelle en revanche, la présence d'un Premier ministre britannique, Keir Starmer, était l'invité d'honneur de cette cérémonie, placée donc sous le signe de l'amitié entre la France et la Grande-Bretagne. Lors de leur entretien bilatéral, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont aussi discuté de l'aide à l'Ukraine, Franck Alexandre.
Avec le retour de Donald Trump, Britanniques et Français font le même constat. L'Amérique ne sera plus un partenaire fiable pour aucun pays européen. Contrairement au nouveau président américain, Londres et Paris jugent essentiel de continuer à soutenir l'Ukraine pour protéger le continent européen dans son ensemble. L'Europe, qui depuis bientôt 3 ans est le premier pourvoyeur d'aide à l'Ukraine avec 118 milliards d'euros, tandis que les États-Unis ont fourni 85 milliards d'euros, précise l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Keir Starmer a déclaré à plusieurs reprises que l'engagement du Royaume-Uni, soit 3 milliards de livres par an, serait irréfutable, mais un retrait américain, qu'il soit financier ou militaire, sera difficile à compenser, disent les experts, notamment dans le domaine des armes de précision, les missiles tactiques. Il faut donc, dans l'urgence, échafauder des plans pour partager les coûts à la fois pour l'Ukraine et l'OTAN face à une Russie toujours plus agressive. La Grande-Bretagne et l'Union européenne devrait entamer très prochainement des négociations sur un pacte de sécurité post-Brexit.
Renouer le dialogue, c'est l'objectif des présidents de l'Assemblée et du Sénat en Nouvelle-Calédonie à partir d'aujourd'hui. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en mission délicate, mission de concertation dans l'archipel français, 6 mois après le début des violences déclenchées par le projet de réforme électorale. Le temps du débat politique viendra après la reconstruction, déclaration de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui a annoncé de nouvelles mesures de soutien après les inondations meurtrières, un investissement de près de 3,8 milliards d'euros supplémentaires. Le gouvernement espagnol avait déjà annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de plus de 10 milliards d'euros en accord avec Bruxelles. Mais pour cela, il faut que le budget pour 2025 soit adopté, c'est ce que souligne la ministre espagnole des Finances dans le quotidien El País, Romain Lemaresqui.
Maria Jesús Montero ne veut pas de polémique supplémentaire après le drame qui a durement frappé la région de Valence. Mais la ministre espagnole des Finances est très ferme lorsqu'il s'agit d'aborder la question du financement de la reconstruction des zones affectées. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et comme elle l'explique dans son entretien avec le journal El País, cet argent ne proviendra pas de Bruxelles. C'est donc à l'État espagnol de prendre en charge cette reconstruction et le plan de transformation de la région souhaité par le chef du gouvernement Pedro Sanchez. Il faut donc que le budget pour l'année 2025 soit adopté. Or, à l'heure actuelle, non seulement les conservateurs du Parti populaire, mais aussi les indépendantistes catalans de Junts bloquent toute avancée sur le budget, tout comme en 2023. Ce n'est pas possible de faire du chantage après pareille catastrophe, explique Maria Jesús Montero dans les colonnes du quotidien. Elle en appelle donc au bon sens. Certes, il faudra aborder la question des responsabilités après ce désastre, mais l'urgence à l'heure actuelle, c'est de débloquer des fonds supplémentaires, et cela passe par l'adoption d'un budget qui prenne en compte la reconstruction des zones affectées, estime la ministre espagnole des Finances.
Il reste en poste, mais avec une marge de manœuvre très étroite. Le Premier ministre Shigeru Ishiba, confirmé à la tête du gouvernement au Japon après un vote du Parlement. Du changement en vue en revanche à Maurice, où le Premier ministre a reconnu sa défaite aux législatives organisées hier au profit du chef du parti travailliste, l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam. Et puis les moindres recoins de la basilique Saint-Pierre de Rome mis à nu grâce à l'exploitation de 400 000 photos du monument par l'intelligence artificielle. Le projet a été présenté aujourd'hui au Vatican et il sera disponible en ligne sur le site de la basilique à partir du 1er décembre prochain. Fin de ce journal, 15h10 ici à Paris. Tout de suite, on vous retrouve, Caroline Lachowski, pour Autour de la question. Bonne émission.